Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le troisième dimanche de l'Avent. Les foules demandent à Jean le Baptiste.
Alors, que nous faut-il faire?
Il leur répond.
Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même.
Des collecteurs d'impôts viennent aussi pour être baptisés. Ils lui disent.
Maître, que nous faut-il faire?
Il leur dit.
Ne percevez pas davantage que le montant fixé.
Des militaires aussi l'interrogent.
Et nous, que nous faut-il faire?
Il leur dit.
Ne faites ni violence, ni tort à personne. Contentez-vous de votre solde.
Le peuple est dans l'attente. Dans leur cœur, tous se posent des questions à propos de Jean. Est-ce qu'il ne serait pas le Messie? Jean répond et dit à tous.
Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui est plus fort que moi s'en vient. Je ne suis pas digne de dénouer les cordons de ses sandales. Lui vous baptisera dans le souffle de sainteté et le feu. Dans sa main est sa pelle à vanner, pour nettoyer à fond l'aire de battage de son blé et pour recueillir le grain dans son grenier. Mais il brûlera la balle au feu qui ne s'éteint pas.
Par ses exhortations et par bien d'autres encore, Jean annonce l'Évangile au peuple.
Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, André.
Bonjour, Georges. Que nous faut-il faire? Voilà une phrase qui retentit peut-être dans notre cœur en écoutant ce passage de l'Évangile. Quel sens avait-elle pour les auditeurs de Jean le Baptiste? Quel sens peut-elle prendre pour nous aujourd'hui où elle s'adressera à Jésus, Seigneur, et non plus au Baptiste?
Eh bien, regardons d'abord si la place de cet épisode nous apprend quelque chose. Les deux premiers chapitres du récit de Luc sont, on le sait, consacrés à l'enfance de Jésus. Et c'est avec le troisième chapitre que s'ouvre véritablement l'Évangile, la mission et la prédication de Jésus. Cependant, les 19 versets de ce chapitre vont être d'abord consacrés à Jean le Baptiste, et c'est là que se situe notre épisode, les versets 10 à 18. Pour bien comprendre ces versets, il faut les mettre en lien avec les 9 premiers versets qui présentent l'essentiel de la prédication du prophète Jean, à savoir le jour de la colère de Dieu qui vient, et il faut se préparer si on ne veut pas être châtié par Dieu. Le début de notre texte va relater la réponse des auditeurs de Jean à ses exhortations. Le verset qui va suivre le texte, le verset 19, signale l'arrestation de Jean le Baptiste par le roi Hérode, Hérode qui fait enfermer Jean en prison. Et cela va mettre pratiquement un terme à la mission de Jean, du moins telle que les évangiles nous la rapportent. Et Luc va alors pouvoir véritablement commencer le récit de la mission de Jésus dont le premier épisode est le baptême. Il faut remarquer qu'il y a là une présentation qui est propre à Luc. En effet, Luc est le seul à placer l'arrestation de Jean avant le baptême de Jésus. Les autres récits la place après. Alors peut-être que Luc veut nous faire comprendre que Jean vient mettre un terme à une période de l'histoire, de cette histoire que Dieu vit avec l'humanité. Avec Jésus, ce serait une nouvelle ère qui commence et qui s'ouvre par le baptême de Jésus. « Aujourd'hui, je t'ai engendré, dit la voix divine, tu es mon fils bien-aimé. » Aussitôt après, d'ailleurs, Luc va placer la généalogie de Jésus, une généalogie qu'il fait remonter symboliquement à Adam, le premier des êtres humains, qui est lui aussi appelé fils de Dieu.
Ce Jean, surnommé le Baptiste, est un prophète.
Oui, en effet, depuis plus de 400 ans, Israël n'a plus de prophète. La voix des grands prophètes que furent Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Osée, eh bien depuis 400 ans, cette voix n'a plus retenti. Le pays a été constamment occupé par les peuples étrangers. Les Grecs, avec Alexandre le Grand, ont conquis la Palestine en 332 avant notre ère. Et les Juifs ne retrouveront leur indépendance qu'en l'an 142, presque 200 ans. Puis ce sera le général romain Pompée, en 63 avant Jésus, qui va prendre la ville de Jérusalem et installer la puissance de Rome sur les territoires du peuple de Dieu. Cela fait donc, au moment où Jean prêche, près d'une centaine d'années que son pays est occupé. Il faut bien prendre conscience de cela pour découvrir la prédication de Jean. Aux souffrances, aux humiliations qui sont causées par l'occupation des troupes romaines, s'ajoute l'interrogation, l'incompréhension de cette situation. Israël n'est-il plus le peuple que Dieu a choisi? N'a-t-il plus la mission unique d'être le peuple de Dieu en ce monde? Comment se fait-il que Dieu abandonne ainsi son peuple? Il me semble qu'il y a là, au temps de Jean, une crise de la foi semblable à celle qu'a fait surgir la Shoah, Auschwitz, Dachau, etc., lors de la dernière guerre mondiale. Pourquoi, effectivement, le Dieu d'Israël n'est-il pas alors intervenu en faveur de son peuple? Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé être quasiment exterminé par les nazis? Cette interrogation, au temps de Jean, beaucoup de Juifs se la posent. Et ils attendent donc une intervention imminente de Dieu. Car pour eux, l'humiliation d'Israël a assez duré. Dieu doit se manifester pour mettre fin à ces années de souffrance. Il doit susciter dans son peuple un libérateur qui sera oint par lui, c'est-à-dire consacré Messie. Les croyances populaires disent d'ailleurs que ce Messie libérateur sera précédé par un prophète. Alors certains pensent que ce sera même le prophète Élie qui reviendra sur terre. Jean jouera d'une certaine manière ce rôle de prophète. Il va annoncer que le grand jour de Dieu s'en vient. Si on regarde dans les écrits bibliques, eh bien ce grand jour de Dieu est vu comme le jour du jugement, le jour de la colère de Dieu. Les mauvais seront exterminés et les justes seront sauvés. Alors comment ce jour-là pourra-t-il se réaliser? Eh bien probablement par une guerre contre les fils de ténèbres, une guerre qui va exterminer donc les Romains, ces païens, qui va manifester ainsi la gloire de Dieu dans le monde. On peut comprendre ces images peut-être en regardant ce qui se vit encore aujourd'hui dans certains pays, ces guerres saintes, où l'on veut vraiment venger l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Mais Jean le Baptiste va prévenir ses compatriotes que tous les Juifs ne seront pas sauvés. Certes, Dieu va assurer le salut au fils d'Abraham, mais il y a bien des manières d'être fils d'Abraham. Le titre de descendant d'Abraham ne suffit pas pour que l'on soit sauvé. Il faut d'abord être vraiment fils d'Abraham par la droiture de son cœur. Il ne suffit pas d'appartenir à la race, à l'hérédité juive. Non, il faut vraiment être fils d'Abraham par l'observance des préceptes de Dieu. Ceux qui ne vivent pas selon la Torah de Dieu, l'enseignement que Dieu a révélé à Moïse, eh bien ceux-là aussi, pour Jean, seront l'objet de la colère de Dieu.
Qui vous a fait croire que vous échapperiez à la colère de Dieu? Toute arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupée et jetée au feu. Que nous faut-il faire?
L'expression par trois fois vient rythmer notre texte. Que nous faut-il faire pour être sauvés? Comment échapper, justement, à ce châtiment de Dieu lorsque celui-ci va faire venir son jugement? Mais regardons d'abord quels sont ceux qui posent la question. Sans doute ceux qui se considèrent eux-mêmes comme pécheurs devant Dieu. Il y a d'abord les foules. Ce sont les gens de la masse du peuple. ceux qui n'appartiennent à aucun des groupements religieux comme le groupement des pharisiens, celui des esséniens, des baptistes, des zélotes. Les gens, en effet, qui appartiennent à ces mouvements se considèrent comme sauvés à cause de la pratique exemplaire, de leur pratique exemplaire de la Torah, ou à cause de leur fidélité aux prières. Eux fréquentent assidûment les synagogues, le temple. Alors que ces foules, peu instruites, ignorent souvent les préceptes de la Torah écrite et les nombreux règlements de la Torah orale qui ont été élaborés par les scribes au long des ans. La réponse de Jean à leur question « Que nous faut-il faire ?» se situe dans la grande tradition des prophètes. Il faut partager avec ceux qui sont dans le besoin. Écoutons ce qu'en disait déjà Isaïe.
« Le jeûne que je préfère, dit Dieu, partage ton pain avec la famine. Tu hébergeras les pauvres sans abri. Si tu vois quelqu'un nu, tu le vêtiras. »
Dieu jugera donc la qualité de fils d'Abraham sur la solidarité concrète avec les pauvres, avant même de juger sur les exercices spirituels, sur le jeûne et la prière. Parmi les auditeurs de Jean, il y a aussi ce qu'on appelle des publicains. Ce nom, on le sait, désigne les collecteurs d'impôts. Ils sont honnis du peuple parce qu'ils exploitent le peuple. Ils sont aussi méprisés par l'élite religieuse parce qu'ils travaillent pour le compte des Romains et ils collaborent donc avec l'ennemi. Ils fréquentent des païens. Ils sont donc impurs pour venir à la synagogue. Il y a donc bien des chances qu'eux aussi vont être châtiés par Dieu lors du jugement. Eh bien, que leur répond Jean ? Va-t-il leur demander de quitter leur métier ? C'est probablement ce que leur auraient demandé des scribes pharisiens. Jean, lui, va leur demander de pratiquer leur métier, mais avec justice.
Ne percevez pas davantage que le montant fixé.
En effet, ces collecteurs d'impôts avaient tendance à prélever bien plus que les sommes qu'ils remettaient aux Romains. On a un bon exemple de ça dans la personne du publicain Zachée lorsque celui-ci se convertit.
Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple.
Troisième catégorie des auditeurs de Jean le Baptiste, les soldats. Eh bien, ces militaires ne sont probablement pas des soldats de l'armée d'occupation. Ces militaires romains étaient païens et ne devaient donc pas se sentir concernés par la prédication de Jean. Ils sont plutôt des juifs, mais des juifs qui ont été enrôlés par Rome pour prêter justement main forte aux collecteurs d'impôts lorsque ces collecteurs ont des difficultés à faire rentrer les taxes. Eh bien, c'est sûr que eux aussi sont l'objet du mépris et de la haine qu'on porte aux publicains auxquels ils sont liés. Eux aussi, d'ailleurs, collaborent directement avec l'ennemi, avec la puissance occupante. Eh bien, Jean ne leur demande pas non plus d'abandonner leur travail. Peut-être que ces gens-là se retrouveraient alors sans subsistance et condamnés à mendier. La misère, on le sait, est très grande à l'époque et les emplois sont plutôt rares. Jean, lui, va leur demander, à eux aussi, d'être justes.
Ne faites ni violence ni tort à personne. Contentez-vous de votre solde.
Comme beaucoup de militaires qui sont souvent mal payés dans certains pays aujourd'hui encore, ces soldats ont la tentation de se payer eux-mêmes en usant de leur force armée. Pour faire vivre leur famille, ils peuvent extorquer sous la menace. À l'un, ce sera un mouton, à un autre, un sac de blé. Eh bien, voilà donc la prédication de Jean. Vivez la solidarité avec les pauvres, pratiquez la justice. Vous serez ainsi les vrais fils d'Abraham. Et alors, Dieu vous épargnera lors du jour du jugement. Et Jean propose à ses auditeurs de manifester leur intention de changer leur vie, de pratiquer la justice, en se faisant baptiser. La secte juive des baptistes utilisait ce rite du baptême pour marquer la purification du cœur. Le groupe des esséniens pratiquait aussi de nombreux bains pour se purifier devant Dieu. Les pharisiens, eux, avaient l'obligation de nombreux rites de pureté, entre autres de fréquents et minutieux lavage des mains, des plats, etc. Mais le baptême de Jean se démarque de ces rites par le fait que ce baptême semble n'être donné qu'une fois dans la vie. Et de plus, il n'est pas seulement un rite de pureté légale, mais il doit correspondre à un véritable changement de vie afin d'obtenir le pardon de Dieu.
Jean serait-il le Messie ?
Eh bien, la question se posait fortement, car on sait que, dans le contexte politique de l'occupation de Rome depuis près de 100 ans, l'attente d'un Messie libérateur est grande. Eh bien, dans le cœur de Jean, la réponse est claire. Je ne suis pas le Messie. Le Messie, c'est celui qui va réaliser le jour du jugement de Dieu. Alors que lui, Jean, il dit qu'il ne fait qu'annoncer ce jugement. Il ignore sans doute par quels moyens se fera ce jugement. Ce sera sans doute par une guerre sainte de libération, mais peut-être aussi par d'autres formes de châtiment et de purification. Jean reprend l'espérance des prophètes. Il annonce que Dieu va purifier son peuple. Écoutons ce qu'en disait Isaïe au chapitre 60.
« Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera la lumière du jour. C'est le Seigneur qui sera la lumière de toujours. Ton peuple, eux tous, seront des justes. Pour toujours, ils hériteront de la terre. »
Jean va traduire et illustrer l'action de ce Messie par l'image du vannage.
Il tient en main la pelle à vanner pour bien nettoyer l'aire de battage de son blé. Il recueillera le grain dans son grenier et il brûlera la balle au feu qui ne s'éteint pas.
Eh bien, de nos jours, peu de gens connaissent encore ce procédé du vannage. Autrefois, pour séparer le grain de blé de sa fine écorce, cette fine écorce qu'on appelle la balle, B-A-L-E, semblant, pas la balle, le paysan utilisait une large pelle, qu'on appelle justement un van, V-A-N. Il avait ramassé les grains de blé dans un endroit, en plein vent, et avec le vent, il lançait le blé en l'air. Et le mouvement et le souffle du vent faisaient se détacher l'écorce du grain. Cette écorce, alors que le grain retombait directement à terre par sa lourdeur, cette écorce, la balle qui est plus légère, était alors emportée par le souffle du vent et retombait plus loin. À la fin de l'opération de vannage, le grain était recueilli dans le grenier, alors que la balle était ramassée et aussitôt brûlée, ramassée pour éviter qu'elle ne soit dispersée aux quatre vents. L'image du vannage exprimait bien le jugement que devait réaliser le Messie. Les justes allaient être séparés des mauvais. Les premiers, les justes, seront rassemblés dans une communauté sainte et les autres seront exterminés. Et le lieu de cette extermination était souvent comparé au feu de la vallée de la Géhenne. La Géhenne est une vallée qui borde la colline du Temple à Jérusalem. On y entassait alors les ordures pour les brûler. Il y avait donc un feu continuel. On peut encore voir d'ailleurs de semblables champs d'ordures que l'on brûle dans certains pays, aux portes des grandes villes, dans les pays pauvres. Les ordures sont entassées dans de vastes dépotoirs où le feu couvre continuellement, pendant d'ailleurs que beaucoup de miséreux cherchent là quelques objets qu'ils vont pouvoir revendre ou bien quelques nourritures qui va leur permettre de survivre. Eh bien, cette image de la punition des mauvais par le feu sera reprise d'ailleurs par Jésus dans la parabole du jugement dernier.
Le roi dira à ceux de gauche, « Allez, loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. »
Ainsi, Jean annonce un autre baptême qui sera donné par le Messie, un baptême de souffle de sainteté et de feu. Et l'expression se comprend d'abord, sans doute, à cause de l'image du vannage. Comme le souffle du vent sépare le grain de la balle, ainsi le souffle de sainteté est la vraie force qui va séparer les bons des mauvais. C'est d'ailleurs ainsi que le livre de la sagesse annonçait le jugement de Dieu.
Le souffle du Tout-Puissant s'élèvera contre eux et les vannera comme un ouragan.
Et le juste poids qu'il faut avoir pour ne pas être considéré comme de la balle légère, mais plutôt comme du grain, bien ce juste poids, c'est le poids des bonnes actions, les actions de justice et de solidarité. Et comme le feu détruit la balle, eh bien le feu éternel sera la punition qui exterminera les mauvais. Jean va faire aussi appel à d'autres textes bibliques pour décrire le Messie. Il désigne, dans notre texte, le Messie comme « celui qui est le plus fort ». Cette appellation, elle se retrouve dans les écrits bibliques pour désigner Dieu lui-même. Ainsi, on peut lire cela chez Jérémie, au chapitre 32.
« Seigneur Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force. Dieu grand, fort, le Seigneur Tout-Puissant est ton nom. »
Eh bien, on retrouvera l'expression dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, où elle va là désigner le Messie lui-même dans sa lutte contre Satan.
Que survienne un plus fort que Satan. Il lui prend tout son armement.
Eh bien, voilà, selon Jean le Baptiste, celui qu'il faut attendre, celui qui ne saurait tarder, celui qui est plus grand que lui, Jean, et dont il n'est même pas digne d'être le disciple. C'est sans doute ce que veut signifier la phrase de Jean lorsqu'il dit qu'il n'est pas digne de dénouer les cordons de ses sandales. En effet, on trouve dans les écrits des rabbins cette phrase « Tous les services qu'un esclave doit à son seigneur, le disciple les doit à son maître, sauf dénouer ses sandales. » Celui qui est plus fort va venir pour le jugement. Il sera donc ce Messie espéré par les foules désespérées après tant d'années d'occupation. Eh bien, celui-là sera-t-il Jésus de Nazareth ? Es-tu celui qui doit venir ? Voilà l'étonnante question que Jean va faire poser à Jésus. Jean est alors enfermé dans la prison d'Hérode. Jésus, lui, est en pleine activité missionnaire. Et Jean entend parler de ce que Jésus fait. Et alors, il lui pose cette question, ou plutôt il décide d'envoyer deux de ses disciples à Jésus pour qu'il pose la question.
Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?
L'expression « celui qui vient », on le sait, est traditionnelle pour désigner le Messie. On la retrouvera dans la bouche de la foule le jour de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem.
Qu'il soit béni au nom du Seigneur Dieu, celui qui vient, le roi.
Alors pourquoi ce questionnement de Jean ? Peut-être parce que la prédication de Jésus le déconcerte. Jésus ne semble pas en effet réaliser ce baptême de souffle et de feu. Ce vannage que lui, Jean, annonçait. Eh bien, écoutons la réponse de Jésus.
Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres.
Jésus accomplit ici le texte du chapitre 61 d'Isaïe. Ce sera ce texte que Jésus va prendre lors de sa prédication dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4. Or, ce texte concerne explicitement le Messie, puisqu'il commence ainsi.
« L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint Messie pour annoncer l'Évangile. »
Ces actions que je pose, répond donc Jésus aux envoyés de Jean, ce sont bien les actions du Messie telles que le prophète Isaïe les annonçait. Mais dans la réponse de Jésus aux envoyés de Jean, comme dans la prédication de Nazareth, il n'est nullement question pour le moment, de jour du jugement. En citant Isaïe, Jésus a d'ailleurs supprimé expressément la mention du jour de la colère de Dieu. En effet, écoutons ce que disait le texte d'Isaïe.
L'Esprit du Seigneur Dieu m'a envoyé pour proclamer l'an de grâce et le jour de la vengeance de notre Dieu.
Eh bien, Jésus, lui, s'est arrêté à mentionner l'an de grâce. Il a omis le jour de la vengeance de notre Dieu. L'an de grâce, eh bien, on sait que c'est une loi du Lévitique qui demandait que tous les 50 ans, on fasse la grâce à tous. Celui qui s'était vendu comme serviteur sans salaire devait retrouver sa liberté. Celui qui avait dû céder son patrimoine pour payer des dettes devait rentrer dans ses biens. Cette loi de grâce, Jésus semble vouloir l'étendre aux païens. Il citera en effet ce que Dieu a fait pour guérir et sauver des païens par l'intermédiaire d'Élie et d'Élisée. C'est ce ministère de guérison, de grâce, que Jésus accomplit. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu, va-t-il dire à propos de Zachée. Ce Zachée, qui était un collecteur d'impôts, qui non seulement va faire justice en remboursant ce qu'il a volé, mais qui, dans un élan de pure générosité, de grâce, décidera de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et cela parce que Jésus a porté sur lui un regard de respect et de bonté en lui demandant, en lui faisant l'honneur d'être reçu à souper chez lui. Le Messie, que Jésus veut être, est venu témoigner de la bonté généreuse de Dieu et de son pardon. Et il est venu pour réveiller la bonté qui est au plus profond de chaque cœur. j'aime beaucoup, aujourd'hui, la foi de Nelson Mandela. On sait qu'il a été enfermé pendant plus de 25 ans pour son action contre l'injuste apartheid. Eh bien, écoutons ce qu'il écrit dans son autobiographie.
J'ai toujours su qu'au plus profond de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Pour haïr, les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer. Car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. La bonté est une flamme qu'on peut cacher, mais qu'on ne peut jamais éteindre.
Eh bien voilà donc la vocation et la mission du Messie telle que Jésus les comprend. Témoigner de cette bonté de Dieu et réveiller la bonté dans le cœur des hommes. Mais alors qu'en est-il du jugement? Ce grand jour est décrit par Jésus, notamment au chapitre 25 de Matthieu, où il est dit que nous serons jugés sur notre générosité toute gratuite, sur la grâce que nous ferons aux plus mal pris, ceux qui ont faim et soif, ceux qui sont malades ou en prison. Mais ce jour, qui sera celui du retour du Fils de l'homme, Jésus a avoué lui-même qu'il ne sait pas quand il se produira.
Ce jour, cette heure, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils. Personne, sinon le Père.
Alors, si le Fils ne connaît pas ce jour et cette heure, ne disons pas davantage que Jésus sur ce jour. J'aime bien cette belle réflexion d'un moine du Mont Athos qui est cité par Olivier Clément.
Soyez sûr que, tant qu'il y aura quelqu'un en enfer, le Christ y sera avec lui. Oui, Dieu reste à la porte de chaque cœur et même des cœurs qui lui demeurent fermés. Et s'il le faut, il attendra toute l'éternité que ces cœurs s'ouvrent à lui.
Dieu attendra toute l'éternité que ses cœurs s'ouvrent à lui. Que nous faut-il faire? À cette question que nous adresserons aujourd'hui à Jésus Seigneur, la réponse n'est-elle pas « Aime, laisse-toi aimer et fais ce que tu veux ». La lettre de Jacques déjà affirmait « La miséricorde se rit du jugement ».
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chères auditrices et auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.